Chronique du dessin, roman graphique. Bonjour à toutes et à tous. Deux romans graphiques aujourd'hui pour cette chronique qui fait suite à la présentation hier de livres ayant une matière narrative préalable. Commençons par Le Meunier hurlant de Nicolas de Monteuil, un roman graphique adapté du roman éponyme d'Artaud Paasilinna. Après La forêt des renards perdus, une nouvelle fois, Nicolas de Monteuil montre le lien naturel pratiquement qu'il y a entre l'œuvre, la sienne, et celle de l'auteur finlandais Artaud Paasilinna. Le trait de Nicolas de Monteuil est un trait fait à l'énergie, avec une souplesse dans la représentation, avec cette façon de représenter de manière ironique à la fois les personnages. On a facilement des visages qui sont marqués par une pointe de caricature, parfois très appuyée, pour que immédiatement le lecteur sente cette distance et cette volonté de ne pas être réaliste, mais au contraire de marquer la façon dont les différents personnages sont le côté pervers, la face cachée de ce qu'ils ont. Artaud Paasilinna est un auteur qui a des récits qui mettent en scène la société finlandaise et qui également, dans ses propos, brocarde joyeusement, avec une grande efficacité, les travers finlandais. Le Meunier hurlant est l'histoire de Gunnar Utunen, dit Nanar, dans la version de Nicolas de Monteuil, et qui va arriver dans un petit village du nord de la Finlande peu après la guerre. Il va racheter et remettre en marche le vieux moulin. Il est d'ailleurs bien accueilli et il a ce meunier, malheureusement, un défaut. À la moindre contrariété, il se réfugie dans les bois pour hurler à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n'ont dès lors qu'une idée, l'envoyer à l'asile. Mais Utunen est soutenu par la conseillère horticole Sanelma Keiramo, et qui est bien décidée à se battre pour défendre sa liberté. Alors, il y a un challenge qui est de représenter toutes ces scènes où le meunier va hurler sa soif de liberté et sa contrariété. Le roman, comme la bande dessinée, sont des univers sans son et il faut utiliser d'autres subterfuges, d'autres moyens pour traduire ces ambiances sonores. Nous sommes à l'asile, voilà comment c'est traduit dans le livre. Pendant la nuit, Utunen marcha encore dans la chambre. Les autres malades dormaient, ronflaient. Les sombres bonshommes du fond pétaient de temps en temps. Le maigriot gémissait doucement, pleurant, le pauvre dans son sommeil. Utunen avait mal à la tête, les tempes serrées. Sa gorge était sèche, son esprit totalement englué. Il commença à geindre tout bas. Sa voix s'échappait de son gosier, plaintive, étouffée. Elle monta un peu et soudain, Utunen poussa de toutes ses forces un hurlement si puissant que tous les occupants de la chambre volèrent de leur lit et se tapirent contre le mur du fond. Utunen hurlait à plein poumon, hurlait toute sa douleur, sa soif de liberté, sa solitude et son angoisse. Les murs de pierre de la chambre semblaient se fissurer sous la violence du cri. Les lits de fer vibraient sous la puissance de la voix. La lampe du plafond trembla, puis s'alluma. Trois infirmiers se ruèrent dans la pièce et guidèrent Utunen vers son lit. Le sommier grinça quand les hommes s'assirent sur le dos du meunier pour le réduire au silence. Dans la bande dessinée, cette version est traduite de manière bien sûr différente, mais l'ambiance est exactement la même. On a les pets que l'on entend au fur et à mesure que le lecteur va s'approcher de la chambre de Hutunen, et puis le hurlement va avoir lieu. La stupeur, la peur même chez les pensionnaires est expressive. Il y a une peur qui est plus exprimée lorsque les infirmiers ont sorti une Hutunen de sa chambre à grands coups de matraque. La forme est légèrement différente, l'ambiance est exactement la même. Le traitement ou la vie de Nicolas Dumonteuil fait merveille dans cette adaptation, et lorsqu'on lit le roman graphique, on n'est absolument pas dispensé de lire le roman de Paasilinna, mais bien au contraire de profiter de sa mise en image et du fonctionnement remarquablement efficace de ce récit. Le Meunier hurlant de Nicolas Dumonteuil, d'après Arto Paasilinna, s'est publié par les éditions Futuropolis. Les 152 pages de ce livre sont au prix de 24 euros et le livre a été publié en Belgique. Poursuivons avec American Parano, qui est écrit par Hervé Bourris et mis en image par Lucas Varela. Le premier tome de ce diptyque s'appelle Black House. Nous sommes à San Francisco et cette maison noire est une église dédiée à Satan que dirige le baron Yeval. Nous sommes dans un polar, il y a une femme qui a été retrouvée assassinée avec une blessure occulte tracée sur le corps de la jeune femme, et c'est une jeune enquêtrice, une héroïne créée pour l'occasion, qui s'appelle Kim Tyler, qui démarre son métier d'enquêtrice et qui revient sur la ville où son père était policier, et même dans le même commissariat. Elle est joyeusement brocardée, avec beaucoup d'ironie et même parfois de méchanceté, et elle va être accompagnée par Ulysse Ford, qui est un enquêteur beaucoup plus chevronné, mais autant Kim Tyler a le vomissement facile, Ulysse Ford va s'essouffler à force de tirer sur son organisme à cause de beuveries et de fêtes, va avoir une attaque et se retrouver hospitalisé. Le San Francisco Police Department est plutôt mal barré pour résoudre cette enquête. Alors, Hervé Bourris est un scénariste qui connaît parfaitement la période des 60s, sa musique. On a une bande-son qui se développe tout au long de l'histoire par des inserts qui rappellent ce qu'on écoute à la radio, qui peut être entendu par les protagonistes de l'histoire. Et donc, il est dans son jardin et cet American Parano nous fait partager ce qui est son terrain de jeu. Lucas Varela est un auteur à un dessin d'une très grande précision, une sorte de réalisme, mais qui n'est pas du tout exempt d'ironie, et à voir la façon dont il dessine des personnages qui sont plutôt douteux, pour lesquels il n'a pas beaucoup d'empathie, et il va joyeusement les caricaturer. Il est aussi dans son jardin parce que tout ce qui est occulte, représentation des enfers, il y prend beaucoup de plaisir, comme on a pu le lire dans Paola Pinocchio. On a un récit qui va donc profiter de ces qualités de représentation de Lucas Varela, aussi bien sur les personnages, sur leurs expressions, sur la façon de les typer, ils n'ont pas du tout la même base de construction, sur la qualité de représentation des architectures, d'une simple voiture de police, du pont de San Francisco qui va être baigné dans la brume, et à chaque fois, cette précision graphique va vraiment porter ses fruits pour que le lecteur soit pleinement à l'intérieur même de cette histoire. Le livre, le premier tome de ce diptyque est accompagné d'une bande-son que l'on peut télécharger à partir du QR code qui est inséré en première page. Il y a également une palette de couleurs qui sont les couleurs de Lucas Varela, c'est-à-dire une sorte de base de bichromie, de trichromie avec un rouge, un bleu, un noir et les variations qu'il va y avoir à partir de ces deux couleurs, rouge et bleu, un rouge qui sera beaucoup plus léger, mais le noir va à chaque fois apporter son aplat d'une très franc. C'est très efficace et cette American Parano est une façon de replonger dans le polar et de découvrir eh bien, que la bande dessinée a encore beaucoup d'espace pour traiter ce type de récit. Nous finissons en musique avec un des titres de la bande-son associée, c'est Bad Girls de Lee Moses.
This is a song about a bad girl. Something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. If I had a head of my own, I just wouldn't listen to nobody. She'll put you down. That's when I told Mama Lee Way. Why be happy with that woman?